Chers amis, nous voilà réunis pour ce deuxième culte virtuel. On ne se voit pas, mais nous sommes unis par l'Esprit et dans l'Esprit du Seigneur pour nous mettre dans sa présence. J'aimerais utiliser une salutation de l'apôtre Paul. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Et j'aime ce verbe « multiplier » pour la paix et pour la grâce. Alors que les mauvaises nouvelles et les inquiétudes s'additionnent et s'empilent, que la paix et la grâce vous soient multipliées. Pour que, comme le dit le psaume 23 que nous avons lu tous ensemble cette semaine, il ne nous manque rien. Et la fin du psaume 23 nous parle de demeurer pour toujours dans la maison de l'Éternel ou dans le temple de l'Éternel. Le temple, la maison, la présence de Dieu. Et ce matin, Yvonne et moi avons lu dans la Bible la construction du temple par Salomon, dans le deuxième livre des Chroniques. Et Yvonne me faisait remarquer le nom des deux colonnes à l'entrée du temple. La colonne de droite s'appelle Yakin, ce qui veut dire « il affermit ». Et celle de gauche, Boaz, « la force est en lui ». Et c'est dans ce temple, avec ces deux colonnes à l'entrée, que nous voulons entrer pour retrouver en lui des forces neuves.
Je vous invite maintenant à chanter deux chants qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu et de reconnaître qui il est, le bon berger qui prend soin de nous.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes où je me suis, oh mon âme, chante mon âme. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai. reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, dont rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour, mon âme rechante son amour. Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil.
Psaume 84. Ô que j'aime tes demeures, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon sage voit vivant, le moineau découvre un gîte où déposer ses petits, près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours.
Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob.
Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Nous chanterons le chant « Louez-le ».
Résonner notre prière, nous
Les minutes suivantes s'adressent plus spécialement aux enfants. Mais bon, les grands peuvent aussi participer s'ils le veulent. Alors ce qu'on va faire ce matin, c'est prier avec les mains. Alors je vais vous demander de fermer les mains. Donc chacun d'entre vous, ferme tes mains et serre tes poings. Serre-les très très fort. Serre-les. Est-ce que tu sens les ongles qui te coupent la paume ? Et tes mains et tes bras qui deviennent tendus. Il y a beaucoup de tension dans le monde ces jours-ci. Beaucoup de gens se sentent stressés, ont peur ou sont tristes. Et toi, comment est-ce que tu te sens? Imagine que ta peur, ta colère ou ta tristesse est là, dans tes poings, serrée. Maintenant, tu peux dire tout haut à Dieu ce que tu ressens. Tu peux lui dire par exemple, « Seigneur, je suis triste de ne pas pouvoir voir ma mamie. » Ou bien tu peux lui dire, « Seigneur, j'ai peur de ne pas pouvoir faire tous mes devoirs pour l'école. » Ou bien, « Seigneur, je suis stressée d'être à la maison tout le temps, de ne pas pouvoir sortir. » Que chaque enfant et chaque personne prennent le temps de parler tout haut à Dieu. Et puis, d'avoir un petit moment de silence. Si vous voulez, les parents peuvent mettre sur pause l'enregistrement pour donner le temps à chacun de parler à Dieu et de lui dire ce qui le stresse. Et maintenant, ouvre tes mains, ouvre-les toutes grandes et demande à Dieu d'enlever tout ce qui te pèse. Ouvre tes mains et tends-les comme si tu recevais un cadeau. Et demande à Dieu de te donner la joie et la paix en cadeau. Tu peux répéter après moi. Seigneur, donne-moi ta joie et ta paix. Reste assis quelques instants avec les mains ouvertes et les yeux fermés. Et pour terminer, j'aimerais lire un psaume qui dit « Remercions le Seigneur chaque jour. Il porte nos fardeaux, il nous sauve. » C'est le psaume 68, verset 20.
Mes soucis, je les laisse au loin. Je me tourne vers toi, je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon.
Prions. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit, mais ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Alors Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance. Viens pour ranimer la foi, réveiller notre espérance. Viens Seigneur, nous accueillons ta présence, nous accueillons ta parole. Amen. Alors en cette période de confinement, n'ai pas voulu, encore une fois, vous faire une prédication sur le sujet avec, par exemple, 5 conseils pour bien vivre le confinement en famille. Vous avez tout sur Internet. Mais nous continuons simplement et humblement notre série sur le livre de la Genèse, que nous terminons aujourd'hui avec la fin de la longue histoire de Joseph et de ses frères, une véritable saga familiale. Alors nous avons déjà parlé depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, de Joseph et de ce mauvais départ dans la vie, la préférence du père, Jacob, pour lui, la jalousie évidente des frères, qui finissent par le vendre comme esclave à des caravaniers qui s'en vont vers l'Égypte. Et puis il y a l'épisode de Madame Potiphar qui est vécu certainement comme une grande injustice. Et puis il y a la prison, le retour en grâce de Joseph à la cour de Pharaon. Et puis il y a aussi la famine en Israël qui fait que les frères vont en Égypte pour essayer de trouver de la nourriture. Ils en trouvent. Mais ils retrouvent aussi leur frère qui est devenu le bras droit du Pharaon. Alors quand on commence cette histoire de Joseph et de ses frères, une histoire qui commence mal, on ne voit pas trop où cela va mener. Mais au fur et à mesure du récit, on s'aperçoit que tous ces événements amènent à l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour son peuple. Et que cet accomplissement du plan de Dieu passe tout simplement, on a envie de dire, par la guérison des personnes et par la réconciliation de cette famille éclatée et blessée. Et dimanche dernier, nous avons vu ensemble quels étaient les signes de cette guérison pour Joseph. Le premier signe de guérison, c'était le fait que Joseph pouvait proclamer la souveraineté de Dieu sur sa vie. Et il le fait à plusieurs reprises, tellement c'est important. Au chapitre 45, lors de sa première rencontre avec ses frères, 20 ans, après les événements, il peut leur dire « Et maintenant, ne vous tourmentez pas, mes frères, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous et que vous m'avez mis dans une citerne. » Et 17 ans après, c'est-à-dire 37 ans après les faits, il leur répète la même chose parce que la blessure ou les blessures et la culpabilité sont grandes, sont fortes. Il leur dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph a compris que Dieu savait faire ce que personne d'autre ne sait faire, c'est transformer le mal en bien. Ou comme dirait Paul dans Romains 8, de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son projet bienveillant, son plan bienveillant. Et puis le deuxième signe de guérison, c'était de voir que Joseph se préoccupait des autres, de ses frères. Dans les derniers chapitres, on voit que Joseph fait tout pour que ses frères retrouvent une certaine sérénité dans leur vie. Il leur pardonne et surtout il insiste pour que ses frères se sentent pardonnés et se sachent pardonner. Ils travaillent à la guérison de ses frères. On peut même aller jusqu'à dire que Joseph semble plus se préoccuper de la guérison de ses frères que de la sienne. Et Joseph nous montre le chemin d'une guérison qui passe par une dépréoccupation de soi-même ou un décentrement. Mais après les signes de guérison, il y a les étapes de la guérison. Les étapes de la guérison intérieure de Joseph. Dieu travaille dans le temps et avec le temps aussi. Et son action guérissante et sa pédagogie se fait par étapes. On peut en voir plusieurs. Mais la première de cette étape de la guérison de Joseph se situe en Égypte où il est amené en esclave. Mais là, en Égypte, le petit Hébreu qui sort d'une citerne se met à réussir dans la vie égyptienne. Il monte socialement. Le texte nous dit qu'il prospère en Égypte. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. On peut parler pour Joseph d'une intégration réussie en Égypte. Il force l'admiration de tous et même la confiance de son maître, le fameux Potiphar. Et c'est formidable ce qui arrive à Joseph, c'est surtout Dieu qui fait passer Joseph à travers la première étape de la guérison. Je te bénis, Joseph. Je te montre que je suis avec toi et que je t'aime. Et on peut imaginer l'effet bénéfique de cette période de sa vie après l'événement qu'il vient de vivre. C'est véritablement du baume sur le cœur brisé de Joseph. Alors évidemment, on se méfiera d'une application trop directe qui voudrait qu'à chaque fois que nous vivons une expérience douloureuse, Dieu compenserait en nous faisant réussir dans un autre domaine, professionnel ou autre. Non, il n'y a pas ce genre de promesse. Dieu n'est pas le Dieu de la compensation, mais il est celui de la guérison et de la grâce qui se renouvelle chaque matin, comme dit l'Écriture, car elles ne sont pas ou elle n'est pas à son terme. Ces grâces se renouvellent chaque matin et elles ont un effet guérissant, ces grâces de Dieu, ces tendresses, ces sourires de Dieu sur nous, ces clins d'œil de Dieu qui nous signalent sa présence et qui nous disent, dans nos blessures, « Je suis là, même dans les épreuves, je ne t'ai pas abandonné pour autant, je t'aime d'un amour éternel », nous dit Dieu comme il le dit à Jérémie qui a vécu bien des difficultés dans sa vie. Alors évidemment, ces signes de Dieu, il faut pouvoir les voir, il faut lever la tête et les recevoir. C'est parfois difficile quand on est en souffrance, quand on est blessé, quand on a peur. Mais justement, Dieu se manifeste d'une manière toute particulière à ceux qui souffrent, à ceux qui ont peur, à ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont en manque de tout, dit Jésus dans sa première béatitude, car je serai avec eux. La deuxième étape de la guérison, c'est l'épisode avec Madame Potiphar dont nous avons parlé il y a quelques semaines, avec le thème de l'injustice. Parce que Joseph vit là une situation particulièrement injuste où il est accusé injustement et finit injustement en prison. Alors on se demande comment cette deuxième injustice après la citerne, l'épisode Potiphar, va pouvoir relever le pauvre Joseph. Après la citerne, la vente, maintenant la prison et surtout une réputation à jamais entachée. On pourrait se poser la question si la blessure n'aurait pas plutôt tendance à s'ouvrir. Mais justement, cette nouvelle blessure, cette nouvelle injustice avec Madame Potiphar vient en quelque sorte soigner la première. Elle ne vient pas l'effacer, ni la minimiser, mais elle vient en quelque sorte la relativiser. Le crime commis par ses frères cesse d'être le drame unique de son existence. Dans la galerie des personnages odieux de sa vie, Madame Potiphar vient rejoindre les frères. Et le récit lui-même nous permet de faire un lien entre ces deux événements dramatiques pour Joseph. Et ce lien, c'est la tunique de Joseph, qui apparaît dans les deux événements comme une pièce à conviction. Dans le premier événement, les frères de Joseph la rapportent, la tunique, à leur père en ayant mis du sang de bouc pour faire croire au père qu'il a été pris par un animal sauvage. Dans la deuxième, Madame Potiphar brandit la tunique de Joseph pour prouver qu'il a bien essayé d'abuser d'elle. Et cette tunique, elle est là comme un symbole de l'injustice, du mensonge, de la blessure. Et cette tunique, en fait, elle véhicule le message que les frères de Joseph ne sont pas les seuls à commettre le mal. Il y a une autre femme dans l'histoire qui n'est pas mauvaise en la matière pour commettre le mal. En fait, le mal est partout et Joseph, dans sa prison, reconnaît quelque part l'universalité du mal, l'omniprésence du mal. Et ça entraîne certainement chez Joseph une sorte de relativisation ou plutôt une sorte de défocalisation. Grâce à Madame Potiphar et malgré elle, il cesse de concentrer tout son ressentiment sur ses frères. Il y a une sorte de déplacement du projecteur de son ressenti. Il voit que le mal est partout et que ses frères ne sont pas les seuls. C'est un mal qui ronge le genre humain, l'humanité, le monde. Et il me semble que cette défocalisation prépare à la guérison. Et je sais que ce n'est pas vraiment l'évidence. Mais je pense que c'est quand même vrai. Et à expérimenter, reconnaître l'universalité du mal et de l'injustice nous permet de guérir de nos propres blessures. En tout cas, c'est une étape dans le processus. Et puis, la troisième et ultime étape du rétablissement de Joseph, c'est évidemment la rencontre avec ses frères, que l'on pourrait appeler la confrontation. Elle parcourt tous les chapitres 42 et 45, jusqu'à 45. Et durant cette confrontation, Joseph n'est pas très facile à suivre. Je vous encourage à lire ces chapitres. Il va faire passer ses frères par toutes sortes d'épreuves, parfois un peu cruelles. Et on se demande où il veut en venir avec toutes ces circonvolutions labyrinthiques, comme disait un ami à moi. Mais en tout cas, il parvient à ses fins, Joseph, il parvient à la réconciliation, au pardon, à la réconciliation de la famille. Ça prend du temps, un temps certain et un certain temps, mais on peut penser que si ça là prend du temps, c'est que Joseph et ses frères n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts, il fallait encore mûrir. Toujours est-il que cette rencontre avec les frères est une étape importante dans la guérison, c'en est même le point d'orgue, le moment de vérité, ça passe ou ça casse. Les 10 frères sont là en position de demandeurs, à la merci de Joseph, qui a le pouvoir. Le rapport de force est tout à fait déséquilibré. Joseph va-t-il en profiter pour se concocter une vengeance bien froide? Que va-t-il faire? La balle est dans son camp. Et si j'insiste sur ces questions dont nous connaissons tous la réponse, c'est pour bien montrer qu'à ce moment-là, la responsabilité de Joseph dans sa propre guérison est plus que jamais engagée. Il a non seulement ses frères entre ses mains, mais aussi sa propre guérison. Il a la possibilité de leur pardonner ou de ne pas le faire, et par là de guérir ou de ne pas guérir. Dieu l'a préparé au pardon. Dieu l'a préparé à la guérison en le faisant réussir en Égypte. Mais maintenant, il est devant ses frères, confronté au drame de sa vie. Que va-t-il faire? Et l'histoire nous dit qu'il va pardonner à ses frères dans un grand moment d'émotion, confronté à ceux qui l'ont blessé dans son être intérieur. Il va choisir le pardon et pour le signifier, il va poser un acte fort. Il va les prendre dans ses bras et les embrasser, comme le dit le verset de Genèse 45, verset 15. Un grand moment d'émotion, comme on dit à la télé. Dans la guérison intérieure, on ne peut pas être complètement passif comme pour une intervention chirurgicale où on vous endort et vous laissez le scalpel du chirurgien travailler sans vous et vous guérir sans vous. Pour la guérison intérieure, il faut être présent de l'intérieur, il faut rester ouvert aux signes que Dieu place sur la route, mais à un moment donné, il faut être prêt à poser des actes de pardon, de réconciliation, de renoncement, de retour, des actes de vie. Et Joseph l'a fait, et il n'était pas un héros, il était juste un homme blessé, comme nous le sommes aussi peut-être, mais il l'a fait. Et nous, qu'allons-nous faire? Allons-nous poser des actes qui guérissent et qui sont les seuls capables de le faire? Alors en insistant, comme je l'ai fait, sur ces actes à poser pour sa propre guérison, on pourrait penser qu'on se rapproche très près de l'auto-guérison, guéris-toi toi-même. Mais l'histoire de Joseph ne nous donne pas cette impression-là. Au contraire, on a vraiment l'impression que si Joseph a voulu pardonner à ses frères, qu'il a pu pardonner à ses frères, c'est surtout grâce à Dieu, grâce à la pédagogie aimante de Dieu. Si Joseph guérit et peut pardonner, c'est parce qu'il a expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie, les soins de Dieu, la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu, la tendresse de Dieu, en un mot, sa grâce. Il a baigné dans la grâce de Dieu. Il a pu regarder sa vie avec les yeux de la grâce et il a pu regarder aussi ses frères avec les yeux de la grâce et poser des actes forts de rétablissement. Dans un article sur la guérison intérieure, Roger Somerville, j'ai eu la joie de l'avoir comme professeur à la faculté de théologie, écrivait qu'il n'y avait qu'un seul remède pour la guérison intérieure, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et en fait, c'est là toute l'histoire de la Genèse. Alors que tous les hommes et les femmes que nous avons rencontrés dans cette histoire de la Genèse, Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob, Ésaü, Joseph et ses frères, nous sont apparus comme des êtres fragiles, faibles, décevant, Dieu, lui, vient les toucher par sa grâce. Son amour inconditionnel manifesté à la fin des temps par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur qui nous rétablit dans la vie par sa grâce.
Nous allons chanter ensemble. Tu viens relever le faible.
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'ouvrir d'un cœur, à se confier à ta voix.
Temps de prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment particulier passé en ta présence, tous ensemble, virtuellement, mais tous unis dans l'esprit. Et on veut te remercier pour les bienfaits que nous avons reçus, en particulier pour ta parole, toujours vivante. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous as placés, ce monde en souffrance. Vois les inquiétudes, les angoisses d'aujourd'hui qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent. Seigneur, ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie et la solitude où les angoisses enferment dans le doute ou le ressentiment. Nous te prions pour que des germes d'espérance soient semés et annoncent l'avènement de ton règne. Donne à ton Église le courage de résister au mal et au repli sur soi, en témoignant du pardon, de ta paix, de ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que ta justice s'y manifeste, et nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Seigneur, dans ces temps extrêmement troublés, nous cherchons en toi notre assurance, et nous sommes conscients que tu es à l'œuvre, même là où nos yeux ne le discernent pas encore. Oui, Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Amen. Même si c'est un peu particulier, il y a quelques annonces pour la semaine. Mercredi, normalement, vous recevrez un petit mail de ma part, une petite méditation par mail. C'est le 1er avril. Et puis vendredi 3 avril, à 14h, comme nous l'avons déjà fait deux fois, on vous donne rendez-vous tous ensemble, mais chacun chez soi, pour un temps de prière de 14 à 15 heures, ou quand vous pourrez. Mais en tout cas, de 14 à 15 heures, pour ceux qui peuvent, comme ça on est ensemble. Et puis, dimanche prochain, le dimanche 5 avril, c'est le dimanche des rameaux. Et nous serons encore confinés, mais nous penserons à cette entrée de Jésus à Jérusalem qui annonce la Pâque. Pour la bénédiction, je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 20. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Alors d'habitude, nous avons un apéritif ou un buffet, comme certains l'appellent, où nous pouvons nous saluer les uns les autres, échanger quelques nouvelles, nous accueillir les uns les autres. On ne peut pas le faire, mais on vous propose peut-être d'adresser un petit texto ou un petit mot sur WhatsApp ou un petit coup de téléphone à quelqu'un de la communauté pour le saluer. Voilà, bon dimanche, à bientôt.